communication. Aurélie Mossé, repenser la création vestimentaire et textile à l'heure de l'interconnectivité. Avant de dire merci, je te présente réellement. Alors, Aurélie Mossé, qui détient un doctorat, est une designeuse, chercheuse et enseignante travaillant à l'intersection du design textile, de l'architecture et des nouvelles technologies. Aurélie est co-directrice du groupe de recherche Soft Matters à l'ENSAD Lab. Elle est enseignante dans les départements design textile et matière et design vêtements de l'ENSAD.
Jusqu'à aujourd'hui.
Sa pédagogie donc, se concentre sur l'initiation à la recherche ancrée dans la pratique du design principalement, mais pas exclusivement, appréhendée par le prisme de la création textile, matériaux et surface. Et je ne sais pas si tu auras le temps peut-être de parler de cette approche aussi par la pratique.
C'est d'illustrer en tous les cas.
Super, ben, merci infiniment pour ta communication.
Ben, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous un petit peu le travail effectivement qu'on fait au sein du groupe Soft Matters, donc pas uniquement ma propre pratique. Sophie a parlé un petit peu d'où je venais. À l'heure actuelle, j'ai une triple pratique de designer, de chercheur et d'enseignante, donc principalement à l'ENSAD. À l'ENSAD, disons, la particularité de cette école dans l'écosystème français, c'est d'avoir un laboratoire de recherche par l'art et le design qui est établi depuis une dizaine d'années. C'est pas dédié à la question du textile et de la mode, mais ça fait partie des problématiques qu'on peut aborder au sein du groupe de recherche Soft Matters, dont je vais parler plus particulièrement aujourd'hui. Donc on est un groupe de recherche parmi 7 autres au sein du laboratoire, que je copilote depuis 3 ans avec Jean-François Bassereau. Et disons, ce qui nous rassemble, c'est effectivement une pratique de la recherche par le design, c'est-à-dire le design à la fois une façon de poser la question de la recherche, le moyen de la développer et d'incarner les résultats. Et on s'intéresse plus particulièrement à comment les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies peuvent façonner des futurs plus résilients. On le fait en partant plutôt d'une pratique textile et matière, mais ça inclut aussi certains aspects dans le domaine de l'architecture, du design de produits. On travaille aussi beaucoup en dialogue avec d'autres disciplines, que ce soit les sciences dures, les sciences de l'ingénieur, ça peut aller jusqu'à l'anthropologie. Ça dépend en fait de l'écosystème de chaque projet. Mais disons, pour essayer de résumer ce qui nous rassemble, c'est la question des textiles et des matériaux souples. Pour ma part, beaucoup tout ce qui est matériaux actifs, donc tout ce qui est un comportement, les notions d'artisanat numérique, de design sensoriel et aussi ce qu'on peut résumer, disons, sur la notion de design circulaire, mais enfin tout ce qui a trait aux enjeux écologiques de façon plus générale. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est un petit peu de parler de comment nous, on aborde ces aspects écologiques au sein du groupe et comment on les travaille dans différents projets. Mais ça me paraissait important de revenir à la base. Pourquoi on traite cette question de l'écologie? C'est parce qu'on sait que aujourd'hui, on ne peut plus ignorer ces challenges et qu'on est dans un monde où il y a des pressions qui sont croissantes et qui sont issues en partie d'un modèle culturel, on va dire, pour faire simple, celui de la révolution industrielle. On sait qu'on utilise des ressources qui sont limitées, on les utilise au-delà de la capacité de la planète à nous offrir à l'avenir si on continue sur ces scénarios. On parle de frontières planétaires, c'est notamment le graphique que vous voyez à droite. C'est plusieurs façons d'analyser la situation dont on abuse de cette planète, et il y a des frontières qu'on a largement dépassées, notamment en ce qui concerne les flots de nitrogène, la destruction de la biodiversité. Et ces schémas-là sont à vrai dire pas tout à fait à jour et ont tendance à continuer à exploser dans plein de domaines. Je pense que vous connaissez plutôt bien ces questions-là, donc je vais pas rentrer dans le détail, parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer comment en tant que designer on peut agir, mais peut-être juste quand même pour récapituler des choses qui ont déjà été un petit peu évoquées au préalable. Effectivement, l'industrie de la mode et du textile est une des industries les plus impactantes en termes de pollution, en termes de questions écologiques. On va, disons, résumer cette industrie-là à la démarche de la fast fashion, qui est l'idée de produire des vêtements rapidement, à bas coût, pour satisfaire des besoins immédiats et changeants. y a des bonnes intentions de démocratisation dans ce système-là, mais il y a aussi des conséquences désastreuses qu'on ne peut plus ignorer, qui se retrouvent au niveau de la génération de déchets extrêmement conséquents, au niveau de l'épuisement des ressources naturelles et au niveau de la pollution chimique. Je pourrais dérouler un tas de chiffres sur ces questions-là, mais voilà, quelques exemples. 18% de la production de pesticides dans le monde est issue en fait de la production de fibres, notamment pour la culture du coton, etc. En France, on jette pas mal de déchets textiles, que ce soit du vêtement, de l'ameublement, etc., que ce soit des déchets, disons, industriels avant commercialisation ou des vêtements qu'on peut nous-mêmes porter et ne plus utiliser. Ça représente 700 000 tonnes annuellement aujourd'hui en France, dont seulement un tiers est recyclé. Et on pourrait parler aussi comment c'est recyclé, mais ce n'est pas le propos de mon discours aujourd'hui. De même, il y a, en termes d'épuisement des ressources naturelles, on connaît bien l'exemple du coton qui est extrêmement demandeur d'eau pour sa culture. Pour produire un t-shirt, nous avons besoin de 700 gallons d'eau. Donc je ne vous explique pas au niveau des quantités de vêtements qu'on produit. Et tout ça pour dire que c'est un modèle qui n'est pas très écologique, mais en plus qui a tendance à croître. C'est-à-dire qu'on a, en 18 ans, on a doublé la production de produits textiles ces 18 dernières années, alors qu'on ne porte pas plus ses vêtements. Donc il y a vraiment, je pense, ce constat est important aussi pour impliquer, je pense. La bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui sont designers dans la salle, mais c'est aussi vrai en tant que consommateur, un designer peut influencer jusqu'à 80-90% du coût économique et environnemental d'un produit. Donc on a un double rôle à jouer à ce niveau-là, et je pense qu'on peut être des acteurs de changement à l'intérieur de cette chaîne même. D'où l'intérêt effectivement de travailler avec des gens comme H&M. Parce qu'ils font beaucoup de dégâts, mais si on change un petit peu de la façon dont ils font, ça a un impact beaucoup plus conséquent que si vous montez votre propre marque et que vous vendez que quelques vêtements en série par an. Alors nous, la question de la résilience, enfin de l'écologie, moi je l'aborde beaucoup par la notion de résilience, que je trouve être une notion peut-être plus pertinente aujourd'hui que la notion, de, en tous les cas en français, de développement durable ou de sustainability en anglais. C'est un concept qui nous vient des sciences sociales, des sciences environnementales, et qui décrit en fait la capacité d'un système à absorber une perturbance, quelque chose qui est problématique pour ce système-là, mais qui l'intègre en se réorganisant sans pour autant perdre donc son identité. C'est-à-dire qu'il essaie de préserver, face à ce changement, cette perturbation, une même fonction, une même structure, une même identité et des mêmes retours. C'est notamment Rob Hopkins qui en parle dans son manuel de la transition, mais c'est utilisé dans de nombreux contexte, et la résilience est aussi un concept aussi bien matériel que psychologique. Je ne vais pas non plus développer dans le détail, mais disons, pour résumer la pensée de Rob Hopkins, un système va d'autant mieux résister à une perturbation qu'il est diversifié, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur différents types de ressources. Si on parle à l'échelle d'une communauté, c'est-à-dire différents types de terres, différentes entreprises, différents acteurs. Mettons, si la production de coton est affectée, bah peut-être que la fibre de lin, parce qu'elle a un cycle de vie différent, va pouvoir pallier en partie, peut-être pas totalement, à une diminution du coton sur une année. C'est un peu la même idée dans l'idée de modularité, c'est-à-dire plus un système est modulaire, plus on peut se passer d'un élément et survivre. Alors que si on est sur un système clos et unique, et ben, s'il est attaqué, il a des chances de l'être de façon centrale. Et ce qui est aussi important, c'est ce qu'on appelle en français la rétroaction, en anglais tightness of feedbacks, c'est-à-dire de ramener en fait les conséquences de nos actions le plus près de nous pour qu'on en ait conscience. Et je pense qu'en termes de système de mode, on a délocalisé nos industries, nos savoir-faire, ça a des impacts à plein de niveaux, au niveau écologique bien sûr, au niveau social, Et donc, plus on a ces choses près de nous, plus on est à même de réagir rapidement et d'en comprendre les conséquences. Donc, c'est quelque chose qui me paraît assez important. Et vous verrez du coup plein de projets ici qui sont chacun à leur manière inscrits dans des dynamiques locales. Nous, on aborde la résilience plutôt au niveau d'une résilience matérielle, d'une résilience culturelle et d'une résilience technologique. Ça c'est un petit peu les différents exemples que je vais aborder tout à l'heure. La résilience matérielle, c'est à la fois la propriété d'un matériau à se déformer et à revenir en forme, et ça engage des questions de durée dans le temps, mais c'est aussi peut-être réfléchir à l'héritage des matériaux de la société moderne et comment on peut dépasser leur usage ou les convertir sans priver non plus, parce qu'ils font partie de notre héritage culturel. Vous verrez différents exemples où on reprend peut-être des savoir-faire du passé, où on essaie de transformer ceux qui sont les héritiers du système industriel. Et on réfléchit effectivement à inventer des nouveaux savoir-faire, des nouvelles technologies qui prennent mieux en compte ces enjeux écologiques. Donc j'ai essayé de prendre des exemples qui se rapprochaient le plus dans le contexte de la mode, qui n'est pas nécessairement celui qu'on traite le plus directement au sein du groupe, même si ça peut être des choses que j'aborde aussi en pédagogie avec mes étudiants, et je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Mais toute cette réflexion-là, pour moi, elle est venue en partie du travail de thèse que j'ai pu effectuer entre Central Saint Martins et CITA, qui est un laboratoire pour l'architecture et les technologies de l'information à Copenhague, où j'ai réfléchi pendant plusieurs années à comment on pouvait rendre les textiles intelligents plus écologiques. En tous les cas, comment ils pouvaient contribuer à rendre la maison plus écologique. Je ne vais pas faire le déroulé de toute la thèse, mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir, enfin, une partie du travail, c'était de voir comment, en fait, on a pensé la technologie de façon traditionnelle comme quelque chose en opposition à la nature. Et on pourrait décliner plein d'exemples. Je pense que la société, dans certains cas d'architecture, exprime assez bien cette distance avec la nature, c'est-à-dire loin des rythmes du jour, de la nuit, loin de la présence même de la nature dans les environnements, au point qu'on crée des bâtiments, des maisons, où on n'a même pas une vue directe sur le monde et la nature. Donc moi, c'est ce qui m'a intéressé dans les expérimentations que j'ai développées, c'est de voir comment des technologies qui intègrent une dimension temporelle, c'est-à-dire des matériaux qui changent dans le temps, qui changent de couleur, de forme, etc., pouvaient nous aider à se réapproprier cette sensibilité au rythme naturel, ce qu'on peut appeler les rythmes chronobiologiques. En tous les cas, comment ça pouvait nous encourager à être plus mettre en relation la maison, ses habitants et la nature et leur technologie. Et moi, là, je parle donc d'interconnectivité pour parler de tout ça, parce que les matériaux dits intelligents, on les pense souvent dans une relation d'interactivité où on exclut complètement la nature de l'équation. Et donc moi, j'ai développé des installations en fait qui essaient de réintégrer ces temps naturels par de l'artificiel dans des environnements. Et donc je vais juste vous montrer un exemple ici qui est une installation en fait à base de polymères électroactifs qui sont des plastiques qui changent de forme avec l'électricité. Donc les structures que vous voyez accrochées ici s'ouvrent quand on leur donne de l'électricité. Et moi, j'ai fait le choix de rajouter à ce système-là un capteur de vent qui va leur permettre de bouger en fonction du vent. Ce que vous devriez voir ici. Donc voilà, c'est en temps réel, les structures s'ouvrent et se ferment en fonction de la vitesse du vent extérieur. Ce genre d'installation était vraiment des outils pour installer une discussion. Ça n'a pas vocation à être un produit commercialisé. C'est pour nous faire réfléchir à comment s'approprier la technologie et comment on peut peut-être par d'autres moyens aussi réintégrer ce temps naturel dans nos environnements. C'est des choses qui sont développées beaucoup en collaboration avec des gens dans le domaine de la science des matériaux, et je pourrais répondre à ces questions après si ça vous intéresse, mais je voudrais revenir plus sur des questions de matériaux peut-être plus classiques dans le design textile et design vêtements. en vous montrant déjà ici un workshop qu'on a mené avec un de nos étudiants chercheurs à l'ENSA Lab qui s'appelle Émile Le Bicheur, qui a inventé avec des camarades, à l'époque il était d'ailleurs étudiant au RCA à Londres, sur la question de l'héritage du plastique et des déchets plastiques dont on sait qu'ils sont un symptôme assez important de relations infructueuses en fait avec nos objets, comme j'ai pu un petit peu le montrer avant. Donc Polyfloss Factory, c'est en fait des machines qui permettent de recycler les déchets de polypropylène. Donc en fait c'est une machine qui marche sur le principe de la barbe à papa et qui permet de réduire des fragments de polypropylène soit en fibres comme vous voyez ici, soit plutôt en flocons. Donc ça passe à l'intérieur de ce tube que vous voyez ici, qui chauffe et qui en fait extrude après. Et donc on a proposé à nos étudiants en design textile d'exploiter les qualités sensorielles de ces matériaux. Donc comment on utilise les savoir-faire textiles pour redonner vie à ce plastique d'une façon peut-être plus qualitative, ce qu'on appelle maintenant de façon assez admise l'upcycling ou le surcyclage. Donc ce qui est intéressant dans la démarche d'Émile de Vicheur et ses camarades, c'est ça lui tient à cœur que ces machines soient des dispositifs ancrés dans des localités, dans des territoires particuliers et qui n'ont pas vocation à se passer à grande échelle, parce qu'à vrai dire, si on commence à s'amuser à déplacer nos déchets pour aller les faire recycler à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, ben on consomme beaucoup de CO2, ne serait-ce qu'en transport, pour ne pas parler des processus de transformation. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ces process-là, c'est que si on les recycle à échelle locale, on peut y incarner un sens, une signification qui est elle-même aussi locale, qui peut-être potentiellement fera qu'on les jettera moins. Là, c'est quelques hypothèses qui avaient été travaillées par les étudiants, dans des dynamiques de design circulaire. Donc là, vous avez du feutre 100% polypropylène. Ici, c'est aussi du 100% polypro, mais vous avez du feutrage et une fusion de pétales plastiques par-dessus, puisqu'on est sur du monomatériau qui, du coup, peut aussi se recycler plusieurs fois. Et à droite, c'était plutôt un intérêt pour comment on peut faire des textiles 3D. Donc, on a mélangé de la fibre de lin avec cette fibre recyclée pour pouvoir thermoformer le plastique à certains endroits pour le solidifier. C'était des propositions à vocation de mobilier. Donc c'est juste quelques exemples là qu'on a pu travailler sur des temps assez courts de 5-6 semaines, parce que ce qui m'importe dans mon travail de chercheur et d'enseignante, c'est de mettre les gens en œuvre pour résoudre ces problèmes-là, et donc on le fait de diverses manières. Je vais vous aussi montrer le projet de Laetitia Force, qui est donc une étudiante qui était en design textile et matières il y a quelques années chez nous et qui est maintenant en thèse à Chelsea, donc en partie dans des groupes qui vous a été présenté à la présentation précédente. En fait, elle s'était beaucoup inspirée du discours de Cradle to Cradle et du concept de monstrueux, des hybrides monstrueux, qui sont en fait tous ces textiles dont on mélange plusieurs fibres à l'intérieur, du coton, du polyester, tout ce que vous voulez. Et donc elle a voulu créer des hybrides avec ces deux matières qui sont celles qui sont les plus utilisées, à vrai dire, dans la production de vêtements, mais en pensant en fait à leur recyclage. Donc en général on les recycle comme ça, c'est pas très esthétique, ça peut être utile, mais en général au bout de ce deuxième cycle d'usage, de toute façon on jette ce mix textile. Donc elle s'est intéressée dans son projet de diplôme à le combiner autrement, et donc l'idée de Muto, enfin en tous les cas de ces prototypes là, c'était d'avoir le substrat de polyester que vous voyez ici, qui est teint, qui est imprimé, qui a une richesse, mais qui va être caché dans un premier temps par une peau de coton, un velours de coton en fait, qui va progressivement s'user pour révéler la couche du dessous. Là on n'était pas dans une approche de vêtements, c'était plutôt une approche de mobilier, de décoration d'intérieur, pour rendre en fait une sorte de poésie de l'usure et du recyclage, qu'elle continue aujourd'hui donc au Center for Circular Design, plutôt sur la notion donc de désassemble, le textile pour le désassemblage, parce que pour bien recycler, il faut pouvoir séparer en fait les différentes sources de matériaux. Donc elle est en train de développer toute une gamme, plutôt d'abord des principes et après des prototypes, des textiles qui, à ma connaissance, sont plutôt orientés vers l'habillement justement. Je crois qu'elle est censée terminer d'ici un an et demi. Donc je pense qu'il y aura des choses sympathiques à voir prochainement. Pour revenir donc à, je vous parlais de résilience non plus matérielle mais donc culturelle, on a un de nos étudiants, Antonin Mangin, qui s'est intéressé dès son diplôme aussi de master à l'artisanat du cheveu coupé qui a pu exister plutôt au 18e, 19e siècle, qui était une façon de garder la mémoire des êtres chers, souvent après leur décès, mais ça pouvait être aussi pour dans des situations de distance géographique, sous forme alors de bracelets, d'objets décoratifs. C'était, on va dire, avant la photographie. C'est ça qui a un peu fait que cette tradition s'est perdue. Et lui, il s'est posé la question pendant son diplôme de master de comment on peut revivifier, explorer ce savoir-faire de façon plus actuelle. Donc, il sait comment le cheveu peut devenir une matière première de production textile. Ça a été sa réflexion dans un premier temps, à essayer de le travailler avec les différents protocoles textiles, l'impression, le tissage et la maille. Donc, qui sont traités en fonction de la longueur de cheveux qui lui est confiée à chaque fois. Par contre, contrairement à d'autres designers, notamment en Angleterre, qui peuvent s'intéresser aux cheveux comme un matériau justement écologique, parce que c'est une production qui est toujours en cours, qui va croître parce qu'on est de plus en plus d'habitants sur la planète, lui, il était plutôt intéressé par l'aspect émotionnel et comment ces matières pouvaient contribuer à célébrer des moments de vie et se faire donc dans un protocole de don et de relation de personne à personne entre le donateur et la personne qui façonne ses textiles. Donc l'ensemble de ces productions ont vocation à garder la mémoire d'un moment particulier. Là, c'est un peu l'idée de cheveux de fiançailles où on va garder le moment qu'on scelle, qu'on estime important d'une relation de couple. Mais il y a plein de situations. Ça peut être les cheveux d'enfant, les premiers cheveux d'enfant. Ça peut être des cheveux de mariage. Ça peut être des cheveux qui signifient un passage de cap dans une maladie. Il y a plein de significations, mais lui, cet aspect individuel lui importe beaucoup et c'est un travail qu'il continue d'exploiter et de voir comment ça peut devenir un écosystème artisanal viable à l'heure d'aujourd'hui dans l'artisanat du luxe. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce travail, mais je ne peux pas ne pas l'évoquer. Je vais l'évoquer brièvement parce qu'il s'inscrit aussi dans une dynamique de revisiter des savoir-faire. Et c'est le projet le plus orienté vêtements qu'on a au sein du groupe Soft Matters, qui est celui de Jeanne Visserial, où globalement, elle s'intéresse à comment réintroduire le principe du sur-mesure dans des collections de prêt-à-porter. Dans un premier temps, plutôt pour respecter la morphologie individuelle des corps, mais aussi avec un questionnement qui est lié aux enjeux écologiques. Elle a décliné tout un travail d'abord métaphorique, d'analogie entre le muscle et le vêtement, entre la peau et le textile. Et elle a développé un procédé en fait de fabrication du vêtement qui dépasse l'étape de coupé-cousu, qui passe directement du façonnage de la matière au vêtement façonné. Qui est un procédé en fait à partir d'un fil continu, là en l'occurrence qui est prototypé avec des fils qui sont des rebuts de l'industrie textile. Donc elle vient en fait finalement envelopper autour du corps et fixer en certains points, un petit peu comme le principe de la dentelle. On est sur une technique, à vrai dire, je pense, nouvelle, qui est un mélange de tricot et de tissage, qu'elle a initialement développé à travers un travail très très manuel. En fait, dans le cadre de sa thèse, elle s'est plutôt intéressée à comment les outils du numérique pouvaient permettre de faciliter cette production-là. Donc, produire plus vite, mais en gardant la main sur le processus de fabrication pour pouvoir décider d'ajuster, de changer la couleur, la taille, le motif de façon précise. C'est une collaboration qui est développée avec l'École des Mines de Paris. Et donc qui sera défendu, sera soutenu, disons, dans l'année. Elle est dans une phase donc assez expérimentale et une beaucoup plus appliquée ici, où elle s'est intéressée à créer des vêtements en fait qui s'ajuste à nos évolutions corporelles. Donc l'idée ici, en fait, d'un pantalon dont la taille est ajustable du 36 au 40 ou du 38 au 42, pour éviter de jeter des vêtements simplement parce qu'ils ne nous vont plus. Et donc ça, c'est une proposition qui pourrait être commercialisée tout à fait aujourd'hui. Et donc sa réflexion générale, c'est effectivement créer des vêtements qui respectent l'individualité des corps, mais qui soient aussi dans des process plus respectueux à la fois de la tradition, du savoir-faire, du tailleur et de l'environnement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une production, on pourrait parler d'artisanat numérique, qui peut être produit à échelle relativement locale également. Alors là, on change complètement de procédé. C'est un projet que nous avons mené en fait avec la WAR, qui est un institut de recherche, un laboratoire de recherche hollandais, qui a notamment un textile lab, donc qui se pose un petit peu les mêmes questions que nous. Et donc on est beaucoup d'ailleurs à s'intéresser à comment on peut transformer l'héritage du système de production industrielle qui est basé sur des procédés à haute température, des ressources qui sont limitées, qui viennent de loin, qui sont parfois ou régulièrement toxiques, en tous les cas pas renouvelables. Et donc on s'intéresse beaucoup à la biologie comme une façon de créer fabriquer et produire des vêtements et des textiles sur le long terme. Donc c'est un projet qu'on a mené l'année dernière sur 6 semaines avec nos étudiants de master autour de on les a initiés en fait à la culture de bactéries. Pour qu'ils puissent un peu commencer à réfléchir sur comment la biologie peut être intégrée dans leur approche. Donc je vais vous laisser, j'espère que le son va être assez fort, découvrir un petit peu ce qu'ils ont fait sur un temps finalement assez court avec des protocoles auxquels ils ne connaissaient pas grand chose.
So this workshop is all about exploring the potential of microbiologic design for textile design practices. We decided to partner with a WAR research lab in Amsterdam to introduce our students to how to cultivate and grow bacteria that are producing colors. In the line of this, the students have been exploring how this can nurture their own making, but also the thinking of their practice in respect to ecological challenges. Lab Society is a research institute for art, science and technology, and we open up and democratize technology in many different fields. Textile Lab Amsterdam is one of the labs within Lab Society. We do research in the field of textile and clothing, trying to find alternatives for the current industry, combining biology, technology, digital fabrication and craftsmanship. Today in the workshop, we dyed textiles with bacteria and we produced some bacteria dyes. So the steps are composed by a preparation phase in which we actually sterilize everything. We prepare the textiles and we sterilize them. And we sterilize the food for the bacteria, which is called medium, which is LP broth or nutrient agar, depending on the application. We sterilize the whole environment. So we work with gas, fire and alcohol to actually create a sterile environment, to then proceed to a phase that is called inoculation, where we basically take some of the bacteria from an existing petri dish that is covered in them and then move them into a new dish that we have covered in either nutrient agar or textile and LB broth. The last phase is actually the one of either harvesting the pigments and the dye, or killing all of the bacteria and pressing the dye onto the textiles through sterilization that happens in an autoclave.
So students were introduced to how to extract colors from bacteria and how to make them grow. This was a starting point to explore more largely some biodesign approaches and how we can design with living organisms like algae or blob, which is a very unknown creature, or exploring the boundaries between natural dyes and bacterial colors as well. And so this was about, from one specific protocol, how to nurture new ones or merge the two together.
Du coup, là, vous voyez un petit peu, on les a initiés à un protocole spécifique de culture de bactéries qui produisent des pigments bleus, hein, comme c'est de la violacéine, à vrai dire. Après, c'était à eux de choisir les pistes qu'ils voulaient, pas nécessairement avec cet organisme-là. Il y a eu l'algue, il y a eu le blob, qui est une sorte de champignon, lichen, on ne sait pas trop encore. Et puis les autres des groupes ont plutôt travaillé sur soit la bactérie comme un matériau inerte, donc juste utiliser le colorant récolté après culture.
Ce qui était nouveau pour nous, c'était de travailler avec une matière vivante qui était difficilement contrôlable et de contraster cet aspect-là avec des techniques que nous, on connaît, par exemple la sérigraphie, et d'avoir un graphisme plus maîtrisé en contraste avec cette matière un peu aléatoire.
Un travail autour du bioplastique.
Maybe open your eyes to some other disciplines or things going on, or
yeah, I think to other fields as well. Like we never really put ourselves in the character of the scientist, and so I think it was the first time for most of us. We were not in a traditional design protocol. We opened up, you know, different roles and tried different things, and some didn't work, and we. Life, but it didn't work because it's clarified some things, opened some new ones. You maybe don't have all the time this opportunity in a commercial context, but it's how new things come alive as well.
Je ne vais pas revenir juste sur tous les projets, parce qu'il y en a eu plein, mais effectivement, on a eu un travail sur l'algue, sur des créations de bijoux qui étaient éphémères, donc à partir de bioplastique et de ces colorants bactériens. On a eu du maquillage do-it-yourself qui intégrait ce colorant aussi. Et là, juste parce que c'est celui peut-être qui s'illustre le mieux, une réflexion sur comment on peut travailler la teinture végétale naturelle et la combiner avec ces colorants issus de cultures de bactéries. Ça pose plein de questions parce qu'à vrai dire, la teinture végétale, c'est très intéressant, mais en termes de culture des fibres, des colorants, bah, c'est aussi problématique pour l'environnement, au même titre que le coton. C'est difficilement la mise à l'échelle, à grande échelle, est compliquée, et c'est là tout l'intérêt du potentiel de la culture de bactéries, avec tous les enjeux éthiques et environnementaux qu'il peut y avoir aussi à d'autres niveaux, mais en tous les cas qui est intéressant parce que ça consomme pas ou peu d'eau, que c'est des organismes qui se renouvellent très régulièrement et donc qui demandent peu de ressources, en gros de l'eau, du sucre, la glycérine, des choses comme ça. Et donc là, c'était un apprentissage de voir comment les procédés de la biologie, on peut se les approprier, donc comment ça informe la pratique du design textile en termes d'esthétique et en termes de procédés. Donc là, c'est des exemples de culture donc de cette de bactérie qui produit un pigment bleu sur des substrats déjà préalablement teints en teinture naturelle. Donc ça nous permet en fait d'avoir des effets colorés plus subtils et plus aléatoires parce qu'on maîtrise encore pas très bien ces petites bactéries, même s'il y a des entreprises comme des startups comme Pili qui s'y intéressent beaucoup en France et qui font des gros progrès. Et en fait, nous, ça, en tant que designer, ça nous pose la question de comment gérer l'aléatoire, comment on collabore avec des êtres vivants. Est-ce qu'on les utilise purement et simplement? Est-ce qu'on en fait des véritables collaborateurs et on respecte leurs droits jusqu'à créer des syndicats, hein, ce que font un peu, je dis ça en rigolant, mais c'est ce que fait Pili, hein, pour essayer de garder une sorte de conscience. Pili, c'est la start-up dont j'ai parlé qui produit des pigments bactériens comme ça, à plus grande échelle. parce qu'il faut quand même garder en tête qu'on travaille avec des organismes vivants et qui peuvent nous apporter beaucoup, mais voilà, on est dans un copartage de la planète. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des colorants qui peuvent être produits comme ça. Il y a toute une gamme de matériaux à partir de mycélium, de champignons, de déchets de vin, etc. où on entre dans une nouvelle matérialité qui nous pose plein de questions et sur lesquelles il y a plein de potentiel. Et je crois que je montre ça pas pour dire que c'est ça qui va advenir complètement, mais c'est des potentiels qu'on ne peut pas négliger parce que plus on aura de technologies diversifiées, plus on sera résilient et mieux on pourra évaluer celles qui sont les plus pertinentes par rapport à un contexte donné. Et c'est vrai que ça fait partie de nous, de nos intérêts de poursuivre dans ces axes-là. On amorce en ce moment un travail autour de la bioluminescence. Mais bon, je vais conclure en fait pour vous dire que voilà, la question de l'écologie, de la résilience, elle est compliquée. Il n'y a pas un mode d'emploi, il faut tester plein de recettes. Mais voilà, ce qu'on peut un peu dire nous de nos différentes expériences, je ne vais pas forcément tout montrer, c'est que déjà quand vous concevez quelque chose, ne serait-ce qu'à un niveau théorique, intégrez toujours la nature dans l'équation. Sinon, il y a de fortes chances que votre matérialisation ne la prenne pas en compte non plus. En ce qui concerne la création d'espace, d'architecture, je pense que le respect des rythmes naturels, que ce soit des rythmes des habitants, de leurs voisins, qu'ils soient humains ou simplement des animaux, etc., est important. Et bon, je ne l'ai pas développé là, mais c'est toute la question de la déterritorialisation et comment on façonne nos technologies avec un temps qui est connecté au rythme de la nature et pas au temps, on va dire, objectif et abstrait de l'horloge. Si on doit recycler, facilitons ce recyclage-là, utilisons des matériaux monomatériaux qui peuvent être recyclés directement, développons des stratégies de design pour des assemblages, essayons de dépasser le besoin de produits chimiques, en tous les cas en ce qui concerne l'ennoblissement textile, et puis essayons de concevoir et de produire à échelle locale parce que ça bénéficie à tous les acteurs de la chaîne. Et bien sûr, la question de l'esthétique fait partie intégrante de ces enjeux-là. Je vais vous laisser sur ces pensées-là. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, venez nous voir vendredi, samedi prochain. Ce sont nos journées portes ouvertes à l'ENSAD. Et si vous voulez un petit peu creuser plus ces questions, il y a un papier qui reprend pas mal des éléments que j'ai présentés aujourd'hui qui sera publié au printemps, je pense, dans la revue Sciences du Design. Voilà, et tous nos membres passés et actuels qui contribuent à nourrir cette recherche au sein de l'ENSAD Lab.
Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai plusieurs questions, en fait. C'est par rapport au recyclage du plastique. Donc, on sait que le plastique, c'est cancérigène, enfin, qu'il y a des... Donc, je me demande, vu qu'il a pour but d'être transformé pour peut-être le corps ou en contact, en tout cas avec le corps, soit de manière vestimentaire, soit de manière ameublement, comment vous allez, dans la recherche, penser à... Est-ce que c'est intégré ou pas, cette question?
C'était un format de workshop, c'était 6 semaines, c'est pas forcément moi mes sujets de recherche à moi. Ça n'avait pas vocation nécessairement à être appliqué à l'habillement. En l'occurrence, Polyfloss Factory, ils ne sont pas dans des démarches de vêtements. Le polypropylène, c'est un des plastiques les moins problématiques, en fait. Donc, en fait, la réponse, c'est en fait, ça dépend du plastique que vous voulez recycler. On a plein de plastiques sur nous, dans tous les traitements d'ennoblissement de textiles. Le polyester, c'est aussi du plastique. Donc, ça va dépendre de la nature des fibres que vous recyclez, mais c'est effectivement un élément à prendre en considération et qui n'avait pas forcément toujours été pris complètement en considération par les étudiants quand ils avaient développé ces propositions-là à l'époque.
Et j'ai une deuxième question. Après, c'est par rapport à tout ce que vous avez présenté sur les travaux de vos étudiants. En fait, moi-même, je suis issue de... Enfin, j'ai fait du Péré avant. Et en fait, je m'interroge sur la formation des étudiants. Je me dis qu'on nous forme surtout à travailler pour le luxe. Et comment inciter vos étudiants à travailler pour la fast fashion? Parce que est-ce que tous les travaux présentés là, est-ce qu'il y en a un qui va travailler chez Gémeaux pour proposer son... Enfin, vous voyez,
Enfin, là, c'est des travaux qui sont sélectionnés. Disons qu'au niveau de la recherche, on est sur des axes spécifiques. Le travail qu'on fait en master, il est beaucoup plus large. En tous les cas, aux arts déco, en design textile, les débouchés pour les étudiants ne sont pas principalement dans le luxe. Il y en a beaucoup qui vont vers l'industrie. C'est peut-être moins vrai à Dupéré, en tous les cas, en ce qui concerne le design vêtements. Mais en design textile, les gens travaillent beaucoup pour, je sais pas, Monoprix, les industriels de l'automobile. Donc nous, on essaye de la façon dont on travaille en pédagogie aux arts déco, d'embrasser le secteur textile dans toute sa variété et de pas justement les focaliser que sur de l'hyper luxe ou de l'hyper artisanal. Après, ça varie suivant les projets. C'est vrai que les projets de thèse que j'ai pu montrer là sont plutôt dans des démarches de luxe, mais à vrai dire, la démarche de Jeanne Fisserial, elle est luxe pour l'instant parce qu'elle est en train d'inventer un nouveau protocole, mais elle aurait vocation à pouvoir s'agrandir, même si je pense pas que ce soit l'idée d'une consommation de masse. Je pense que c'est l'idée de revisiter justement un nouveau système qui s'appuie sur des maillons à beaucoup plus petite échelle. Donc on aura, je suis persuadée qu'on va pas abandonner la production de masse à grande échelle, mais on va peut-être retrouver de plus de petits acteurs locaux comme on avait il y a une centaine d'années, des couturiers à chaque coin de quartier. Donc, je pense qu'on sera dans un entre-deux. Donc c'est très variable, mais nous on travaille à vrai dire beaucoup en partenariat avec des industriels ou des agents d'architecture. Je crois que le dernier partenariat luxe qu'on a eu remonte à 5 ans, par exemple.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Non, ça vous a...
Pili, P-I-L-I. Qui donne une conférence prochainement dans le cadre des conférences de Hermès sur les textiles.
Et en fait, oui, la question de l'ancrage du lien au territoire est intéressant en fait. Enfin, c'est pas que il y a d'autres choses intéressantes, mais je trouve que ça revient souvent dans ce que tu as présenté.
Je pense que la mondialisation, le système de la fast fashion s'est déployé à une échelle globale. Alors ça a eu des avantages, mais ça a aussi des impacts énormes. Ouais. Et au niveau écologique, au niveau social, on a tout à gagner, pas tout à refaire à toute petite échelle non plus, mais ça dépend du sens qu'on met au produit. Et c'est la résilience prône beaucoup ça. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est très orienté là-dessus, effectivement. Ouais.
J'imagine que les entreprises textiles se penchent aussi sur ces questions. Est-ce qu'elles viennent vers vous pour vous soumettre des sujets d'études ou des...
Alors nous, on est régulièrement sollicités pour des réflexions. Il faut quand même savoir que l'industrie textile, c'est des entreprises souvent à petite échelle. Donc c'est très difficile, très compliqué pour eux de financer la recherche. Il y a souvent des envies, mais une sorte d'incapacité financière à la mettre en œuvre. Et c'est vrai que du coup, de travailler avec des institutions, des environnements académiques, ça permet au moins d'amorcer ces réflexions-là, mais c'est pas toujours facile de les pousser ailleurs. Et c'est là où c'est intéressant, parce que du coup, on est en train, je pense, de former une nouvelle génération de designers qui vont devenir entrepreneurs beaucoup plus que par le passé et qui vont pouvoir peut-être mailler un autre réseau d'entreprises qui auront dans leur ADN dès le départ ces enjeux écologiques. Et
alors, est-ce qu'il y a une coordination? Parce que par exemple, si une entreprise textile vient vous voir et soulève une question importante, est-ce que ça peut avoir un rayonnement? Je sais pas si c'est le bon mot, mais auprès d'autres entreprises textiles, est-ce qu'il y a une sorte de coordination d'information auprès des entreprises textiles?
Ça dépend de comment le partenaire a envie de communiquer sur ce qu'il a fait, pourquoi il nous contacte. Ça dépend s'il nous contacte dans un contexte pédagogique ou dans un contexte de recherche. Nous, on a plutôt une longue tradition du partenariat au niveau pédagogique, puisque le groupe de recherche, lui, a 3 ans d'ancienneté et le laboratoire, une dizaine d'années. Mais on est... moi, en tous les cas, on s'intéresse beaucoup à dialoguer, justement, entre industrie, université, créateurs. Donc, on participe de pôles de compétitivité avec qui on échange. On ne travaille pas systématiquement avec eux, mais en tous les cas, on essaie de faire du transfert de compétences et d'informations. Je dois dire qu'au niveau du Groups of Matter, c'est encore très limité parce que nous-mêmes, en tant que chercheurs, on n'a pas vraiment de financement d'assurer. Et donc, ça se fait par le biais des partenariats auprès des possibilités. Et ce n'est pas toujours des sommes conséquentes, mais de plus en plus, on essaie d'installer des chaires industrielles au sein de l'ENSAD pour financer ces démarches-là. Et le mécanisme le plus intéressant pour nous et le plus simple à l'heure actuelle, c'est de financer des thèses de doctorat. Donc, par exemple, c'est un projet que je n'ai pas montré aujourd'hui parce qu'il était un petit peu moins dans le cadre, mais on a une étudiante, Anna Saint-Pierre, qui fait une thèse CIFRE avec une agence d'architecture et elle réfléchit sur comment récupérer les gravats, les déblais architecturaux pour en refaire une production qui va s'intégrer dans l'habitat. Alors, ça a une... Oui, ça existe déjà, mais elle le fait pas à travers des procédés textiles qui ne sont pas nécessairement exploités. Et je pense que de toute façon, plus qu'il y a d'acteurs dans ce domaine-là, mieux c'est. Et je dis ça parce qu'elle ne le fait pas nécessairement qu'à des vertus écologiques, pour des vertus écologiques, mais elle le fait aussi dans une dimension de transformer un patrimoine pour en garder la mémoire sans le conserver sur un mode figé. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté par exemple aujourd'hui. C'est l'agence d'architecture qui nous a sollicité parce qu'ils voulaient traiter ces questions-là, qu'ils n'avaient pas les compétences en interne, et on est régulièrement sollicité sur ça. Mais après, il faut que l'entreprise soit en mesure de financer à hauteur de moitié le financement.
Concerne la thèse pratique même, l'ENSAD est assez précurseur de ces thèses-là, non ?
Alors, la recherche par le design est née dans les années 70 à peu près, a été formulée en Angleterre, on va dire, en tous les cas à l'échelle européenne. Et l'ENSAD, effectivement, je pense, l'établissement en France le plus structuré. Il existe depuis 11 ans, je crois, l'ENSAD Lab. On s'est pas mal renforcé il y a 6-7 ans. Donc, on a en fait un mode de fonctionnement qui tend de plus en plus à aborder les exigences d'une thèse universitaire en gardant la singularité d'une pratique, d'une recherche par la pratique, comme ça se fait de façon plus courante, effectivement, en Angleterre, en Scandinavie. Donc, on est, on va dire, plutôt en avance pour le contexte français et on essaie de rattraper les wagons par rapport à la scène internationale.
C'est souvent le cas. Et Jeanne, elle fait sa thèse, du coup, à l'ENSAD en partenariat avec l'École des Mines. Ça aussi, c'est très intéressant de voir...
Alors, Jeanne a une thèse... Nous sommes une école d'art, nous ne sommes pas une université. Nous avons très peu d'enseignants, chercheurs qui sont eux-mêmes docteurs ou HDR. Et donc, pour pouvoir, à vrai dire, décerner des doctorats, nous passons par le programme SACRE, qui est un programme collaboratif entre l'ENS et différentes écoles d'art du réseau PSL. Donc, ça nous finance une thèse par an au sein de l'école. Sur des sujets interdisciplinaires, c'est-à-dire art et sciences. Et le reste des thèses sont financées par d'autres mécanismes. Donc Jeanne est financée par ce programme et c'est elle-même qui a amené le partenariat avec l'École des Mines au cours de sa réflexion.
Merci. Merci à vous. C'était encore une séance passionnante. Edwina, thank you so much. Thank you very much.